Bonjour à tous. Je vais vous présenter en fait une introduction sur l'assurance qualité en Python. Donc montrer quelles sont les pratiques, les bonnes pratiques ou du moins les outils qui vous permettent d'avoir une qualité minimum sur votre code. Donc avant tout, il faut se mettre bien d'accord sur une chose, c'est que le code est écrit pour être lu. Ah, ce n'est pas pour être exécuté, c'est vraiment pour être lu par soi-même quelques jours plus tard, des semaines plus tard, ou évidemment par une équipe de développement. Donc, juste une définition de l'assurance qualité. C'est une définition un peu à moi. Chacun, enfin, il y a beaucoup de définitions en fait. Donc, c'est aussi à chacun d'avoir ses exigences et son périmètre. Sur son périmètre qui souhaite contrôler. Donc, évidemment, la chose la plus essentielle, mais en fait qui englobe beaucoup de choses, qui englobe tous les projets informatiques, c'est évidemment le respect des spécifications et besoins des clients. Donc, sachant que le client peut être soi-même. Bien sûr, le développement et la validation de l'application. Ça, c'est la partie qu'on va traiter un petit peu plus en détail, c'est-à-dire c'est là où va vraiment où on va utiliser les outils, c'est pour valider cette partie. L'intégration, c'est une chose très importante, elle sera pas évoquée, mais c'est un coût qui est relativement énorme dans les développements et on oublie souvent qu'en fait, les coûts d'intégration, surtout à l'heure actuelle où maintenant on utilise de plus en plus de briques logicielles, c'est surtout ce point-là qui prend du temps. Dernier point, peut-être, à mon avis, l'un des plus importants pour l'assurance qualité, c'est la livraison des produits techniques, parce que c'est le seul critère que va avoir le client pour juger d'une qualité. Et évidemment, il faut l'avoir le plus tôt possible. Il faut avoir un environnement qui puisse nous permettre de faire des livraisons. Quitte à faire une livraison, on va dire, en blanc, avec rien dedans, il faut déjà valider le fait qu'on puisse livrer. Typiquement, un problème qui peut se poser, c'est d'avoir un développement sur plusieurs semaines et d'arriver au moment de la livraison et s'apercevoir que, on n'arrive pas, on n'a pas les mêmes versions des logiciels que le client. Ou pas les mêmes outils pour l'installation. Donc essentiel, c'est la livraison, une chose à valider dès le début, bien qu'on l'utilise plus tard dans un projet. Alors là, évidemment, je vais être obligé de passer par les bases que tout le monde doit connaître. Pour qu'un projet soit maintenable, il faut évidemment un système de gestion de version. Si on n'a pas ça, on est mort. Je pense que tout le monde est convaincu ici. Après, que ce soit Mercurial, JIT, Subversion, ce que vous voulez, ça, c'est pas important. L'important, c'est que l'outil soit maîtrisé par l'équipe de développement. Donc, il y a souvent des outils qu'on n'utilise pas assez, mais comme les logs, history, les annotations, ça peut être utile de tracer, de retrouver des versions qui ne marchaient pas grâce à ça. Donc, évidemment, c'est indispensable. Après, concernant Python, il n'y a qu'une, on va dire, on est relativement chanceux, il n'y a pas de guerre de style, il n'y a pas plein de conventions, il y en a une, et il n'y en a qu'une, donc il faut la suivre, c'est simple, c'est PEP 8. Donc, sachant que cela vous permet non seulement de relire, souvent on a un problème, c'est à la relecture de se réhabituer à un style. Là, au moins, on est sûr de pouvoir retrouver immédiatement un style commun et ça favorise énormément les relations entre les développeurs. J'ai rajouté le Zen of Python. J'imagine que tout le monde l'a lu. Et relu. Si c'est pas le cas, levez la main. Bah deux. Non. Non, tu m'en dois un. Eh ben, écoute, Je vais essayer de faire passer ça. On va dire, généralement, on n'aime pas trop ce genre de choses cachées, non documentées. Ça nous rappelle certains éditeurs. Mais pour une fois, on va garder parce que c'est pas seulement quelque chose qui est là pour faire joli. C'est quelque chose qui est très utile. C'est les fondements du langage. C'est des règles qui à terme doivent paraître évidentes, mais au début sont très importantes à suivre. Donc je vais pas les lire ici. C'est import these et il faut le lire, essayer de comprendre ce qu'il en est. Et ça, c'est, on va dire, la base de la qualité d'un code. C'est faire les choses simplement avant tout et graduellement. Donc je vais revenir. Alors, on va voir en revue les modules standards Python qui vont être très utiles et qui vont être surtout la base d'environnement de test beaucoup plus conséquent. Donc, le module logging. Pourquoi le module logging? C'est qu'on est tous, à un moment donné, arrivés à faire du debug avec des prints un peu de tous les côtés, de s'apercevoir qu'on n'arrive pas à relire les messages. Donc, autant partir sur une chose simple, d'utiliser quelque chose qui est fourni en standard. Donc, ça permet de remplacer. Et c'est quelque chose qui ne coûte pas beaucoup de lignes, qui est relativement simple à mettre en œuvre et on va voir peut donner qui a beaucoup d'avantages par rapport au debug avec le print. L'intérêt c'est de pouvoir en avoir sur une arborescence, d'en avoir à plusieurs niveaux dans le code et pouvoir ensuite jouer sur la configuration par niveau, c'est-à-dire de pouvoir changer le bruit que les logs génèrent. Alors là, je vais vous le lire. Mets en place une politique de suivi et d'historique des erreurs du programme dès le début du développement et ceci pour toute la vie. C'est important de comprendre que le code doit non seulement être écrit, mais doit être écrit pour être maintenu. C'est pas pour qu'il marche, c'est surtout pour qu'il marche plus tard. Donc c'est un des outils qui permet de faire cela en suivant l'activité de votre logiciel au cours du temps. Alors, petit problème. La chose essentielle, c'est qu'il est entièrement configurable par un fichier ini. Le format importe peu, c'est le fait qu'il soit configurable et à tous les niveaux. Qu'on puisse désactiver un logger, qu'on puisse lui dire d'être plus verbeux, qu'on puisse changer la manière dont il va fournir les logs. On a à ce sujet plusieurs possibilités. C'est avant tout le fichier, ça paraît le plus facile. La console, si on traite les choses, si on traite, on veut voir directement le retour. Mais on peut imaginer aussi des envois de mails lors d'erreurs critiques et beaucoup d'autres choses. Il y a même eu des tentatives pour intégrer des logs dans un outil. En fait, on envoie directement sur un GUI dans chaque fenêtre les différents logs des machines. Donc c'est énormément maniable. Et le fait que ça soit configurable par fichier, ça permet de séparer une chose, c'est l'administration de la configuration de l'implémentation. Ceci, en fait, pour toujours dans l'idée d'une mise en production, laisser la main à un administrateur pour qu'il puisse lui-même désactiver ou activer une certaine partie des logs. Donc ça permet de ne pas de laisser un code qui marche en production et d'éviter les interactions. Donc voilà, vous anticipez tout le travail, le futur travail de maintenance, même si ce n'est pas vous qui le ferez, il faut considérer que tout programme doit être maintenu. Donc là j'ai mis un exemple où en fait je veux juste montrer un import à faire par rapport à un print. Un import à faire, on a la possibilité d'hériter d'une d'avoir un objet qui de config minimum avec un niveau de sévérité info. On a plusieurs niveaux qu'on connaît, qu'on utilise assez souvent: debug, info, warning, erreur. Et là typiquement on met en œuvre un filtrage, donc les messages de debug n'apparaîtront pas dans la trace, dans le journal. Donc je vous encourage à aller voir cette URL, elle est assez complète, il y a pas mal d'exemples sur ce module là. Vient ensuite un module particulièrement utile qu'on connaît mais qu'on utilise peu, c'est PDoc. C'est donc ce qui est utilisé par la commande help. Ça se base en fait essentiellement sur les docstrings. Les docstrings, c'est des messages courts qui deviennent une norme de facto sous Python pour commenter son code. L'intérêt de PDoc, c'est de retrouver une vue plus synthétique et plus précise d'un code. L'information est synthétisée, donc ça nous permet, le code fait foi de toute façon, mais ça permet quand même d'avoir une vue beaucoup plus, non pas au niveau, mais synthétique, oui, sur le source. Et évidemment, le corollaire, c'est d'avoir relativement une information qui est toujours à jour, puisque c'est le développeur qui documente et que lui-même sait que ce texte-là sera lu, il y a de fortes chances que régulièrement les docstrings soient à jour. Donc en utilisant PDoc, ça vous permet d'avoir un début de documentation technique et surtout ça permet de gagner énormément de temps lors de la mise au point, de voir les API ou les fonctions. Je vais prendre un exemple avec la console, si je la retrouve. Alors à quoi ressemble PDoc? Voilà, c'est comme une page de man avec le même intérêt, accéder rapidement à des informations essentielles sans tout reparcourir. La description qui correspond à la description en haut d'un module, on retrouve toutes les classes utilisées dans le module. On a ensuite toutes les fonctions qui sont rattachées au module. Donc imaginez tout ça dans un module, à aller parser, aller lire directement. C'est beaucoup plus rapide d'utiliser, sachant qu'on là on a une interface qui nous permet de faire des recherches. Donc je ne vais pas tout passer, je pensais que ce serait un petit peu plus court. En tout cas, si on veut voir à quoi ça correspond. Bon, je voulais vous montrer, j'ai pas trop l'habitude du Mac, mais j'aurais bien voulu vous montrer en fait à quoi, comment noter les. Ah, c'est bon. Bon, c'est pas grave. Voilà, merci beaucoup. Donc, on retrouve la description du début. Avec les sections du PIDOC et les fameux docstrings, donc ces chaînes qui sont en dessous les fonctions, donc là en rouge. Donc, enfin, c'est PIDOC est vraiment un outil très intéressant qui, au même titre que MAN, imaginez ce que peut vous apporter. Enfin, vous voyez ce que vous apporte les MAN. Bah, imaginez donc ce que peut vous apporter PIDOC. Donc ensuite, on va passer au module peut-être le plus intéressant pour l'assurance qualité. C'est en effet ce genre de module qui va vous permettre de valider toutes vos spécifications, toutes vos fonctionnalités. Il n'y a que les tests qui peuvent valider ce que vous avez produit comme code. Donc faites des tests tout d'abord sur les fonctionnalités, faites même sur le même principe de faire un test qui ne marche pas pour ensuite petit à petit. Pourquoi c'est dans ma présentation? Donc, je répète, les tests unitaires, c'est vraiment ça qui va être la base de la validation et de la vérification. La validation des besoins, mais la vérification de votre code. C'est quelque chose à maîtriser, à connaître et surtout à pratiquer. Donc, c'est garantir surtout la non-régression. C'est le mal absolu dans les livraisons successives, c'est d'avoir quelque chose qui marche et qui ne marche plus après. On passe vraiment pour très très moyen, c'est pas très professionnel. Une chose très intéressante, mais là qui concerne que les développeurs, c'est de voir au plus tôt les erreurs, les problèmes, les détecter. Ça permet de gagner un temps fou et de ne pas partir dans un tunnel de plusieurs jours avant de s'apercevoir que ça ne sert à plus à rien. Juste le point en fait sur le fait que c'est également de la documentation. Ces tests-là démontrent la compréhension des problèmes, mais vont au fur et à mesure des bugs ou des erreurs vont permettre de comprendre les points délicats de l'application. Donc c'est du code, mais c'est encore une partie de la documentation technique. Voilà un exemple d'unit test, toujours assez simple, un import, une classe qui hérite de test case, et ensuite une convention d'avoir des méthodes qui commencent par test. C'est très simple à mettre en œuvre. Là, c'est la première, on va dire le premier niveau d'unit test, c'est pouvoir lancer les tests. Après, il y a des environnements qui permettent de vous lancer plusieurs séries de tests d'un même projet. Donc là, c'est juste pour démontrer la syntaxe et pour montrer que la syntaxe est assez simple. On a ensuite des méthodes particulières qui vont juste tester des résultats ou tester des comportements. On s'attend à des éléments égaux, on les teste. Alors le danger avec ce genre d'outils, c'est évidemment de vouloir mettre tous les tests et leur opposer, ce qui arrive à énormément de code qui ne sert à rien. Donc la difficulté après est déportée, c'est d'avoir des tests qui sont judicieux. Voici un retour de ce que peut fournir unit test. C'est condensé, c'est peut-être pas trop lisible au premier abord, mais en fait ça vous permet de voir très rapidement ce qui ne va pas. Les petits points en haut, c'est pour les tests qui ont réussi, le F c'est pour un échec, donc on voit qu'on a une dizaine de tests et qu'on a une erreur. On retrouve la trace, on retrouve la ligne qui est en cause, et évidemment dans le cas de développement plus conséquent, ça nous permet d'être sûr à tout moment que la stabilité de l'application est préservée. Il y a ensuite un autre module, un petit peu différent ou plus bas niveau, si on peut parler de bas niveau avec Python, mais du moins c'est quelque chose d'essentiel, c'est le debugger qui est intégré, qui est fourni directement. Quand l'utiliser, bien surtout quand on peut pas faire autrement, c'est pas quelque chose qu'on utilise pour le plaisir, ou alors il y en a très peu. Ça permet surtout de pouvoir inspecter certaines parties du code en mettant un point d'arrêt. Un peu violent le zoom là. Donc le point d'arrêt, c'est les deux lignes en bas. Ça vous permet à tout moment de pouvoir interrompre l'exécution d'un programme et de rentrer dans le debugger. Alors le debugger, c'est un autre shell avec quelques commandes. Voilà, donc on peut voir là des lignes 7 à 13. Un code avec des opérations d'assignation. On met le point d'arrêt entre la première et la deuxième instruction, et on peut à ce moment-là agir sur, grâce au côté dynamique et interactif de Python, agir sur le code. Donc là, il n'y a que la commande de print, mais on pourrait imaginer de faire des appels de fonctions, de pouvoir faire beaucoup plus de choses et de tester en profondeur l'exécution pas à pas. Alors, ça, c'était les briques de base qui vous permettent ensuite de passer à quelque chose de plus complet. Et ce qu'on appelle... Alors, il faut déjà intégrer tous les outils dans une chaîne de validation. On utilise pour ça des environnements pour les tests unitaires. On a vu Unitest qui permet de faire quand même pas mal de choses. Aujourd'hui, on trouve Nose qui est assez évolué et qui a un concept intéressant d'intégrer les outils au sein de son fonctionnement. Il y en a d'autres. Vous trouverez une ressource enfin qui permettra de lister d'autres environnements. C'est celui en tout cas qui a le vent en poupe en ce moment. On a ensuite une partie qui concerne l'assurance qualité qui s'appelle la couverture de code. Alors la couverture de code, ça permet essentiellement de valider votre code. Premier niveau, ça va être la syntaxe. Ensuite, ça peut aller sur la logique de votre application, sachant que ça reste un outil. Le côté dynamique de Python vous permet de faire des choses beaucoup plus, on va dire, évoluées. Et donc, à partir d'un certain moment, ces tests-là, ces outils-là, ne sont plus adaptés. Donc, le problème... par l'aspect dynamique, c'est que le code qui est vérifié, c'est seulement le code qui est exécuté. Vous pouvez, à l'heure actuelle, pas détecter de code mort à l'intérieur avec ces outils-là, ou du moins pas facilement. Et on verra ensuite qu'il faut une partie d'analyse de code. Juste une note sur Coverage pour vous dire que c'est l'un des premiers modules et toujours utilisé par d'autres, Figleaf qui est décent, et puis Metrics qui est assez nouveau mais qui est intéressant par le fait qu'il calcule une complexité un peu plus théorique par rapport aux autres outils. Donc ça donne des résultats, enfin ça donnera peut-être quand il sera complètement abouti des résultats intéressants. Ensuite vient la partie refactoring. Le refactoring, c'est pouvoir changer du code sans en changer le comportement extérieur. Une règle d'or pour ces outils-là, c'est donc ROP ou Bicycle Repair, c'est de ne pas vouloir tout faire à la fois, d'améliorer le code et d'ajouter des fonctionnalités. Ces outils doivent se faire à fonctionnalité égale. Vous devez toujours avoir le même nombre de tests unitaires qui passent en utilisant... au début et à la fin en utilisant ces logiciels-là. Il ne doit pas y avoir d'ajout de fonctionnalités à cette étape-là. Les outils d'analyse de code vous permettent d'aller plus loin dans la logique de votre application et d'installer des règles de bonne conduite ou du moins de les valider. Il y en a trois à l'heure actuelle. Les trois parlent toujours par l'un des avantages, mais c'est le principal inconvénient, c'est le côté dynamique de Python. Les trois donnent des résultats relativement différents. Il y a un gros problème par rapport à d'autres langages, c'est que la vérification se fait à l'exécution. Donc vous obtenez des erreurs, des messages d'erreur qui peuvent vraiment être très indépendants. La chose à retenir, c'est qu'on a des outils, ils produisent peut-être des résultats différents, mais c'est parce qu'ils ont tous des approches qui peuvent se complémenter. Donc l'idée, c'est de les utiliser les trois, en fait, de les intégrer. Donc les intégrer dans votre chaîne dans votre environnement de test. Pour finir sur ce thème de l'assurance qualité, on peut peut imaginer un petit peu l'assurance qualité comme l'anticipation des problèmes et prévoir la maintenance et les problèmes que ça va occasionner. Une autre chose aussi, au même titre que le jeu de billard, qui est de non pas mettre directement la boule dedans, mais de dans le trou, mais de pouvoir essayer de penser au coup d'après, c'est aussi de bien isoler, de bien répartir son organisation et d'avoir des tests qui soient isolés les uns des autres. Donc en prenant l'image du billard, c'est beaucoup plus simple de jouer avec des bouts qui sont séparés et espacés que d'avoir tout concentré à un même endroit. C'est un peu l'idée avec les tests, il faut que ça soit vraiment isolé pour que ça marche. Il ne faut pas de dépendance, car les dépendances vont créer d'autres comportements et d'autres effets qui ne seront pas voulus. Donc, juste pour finir, je vais vous mettre les liens qui font suite à cette introduction. La mailing list, testing in Python, où il y a beaucoup d'informations, surtout utiles pour faire de la veille technologique. Et pour ceux qui veulent avoir plus de renseignements sur les outils disponibles, je vous conseille la page du wiki suivante, le deuxième lien, qui vous permettra d'avoir vraiment à l'heure actuelle la meilleure vue des outils disponibles sous Python. Viennent ensuite un article et des livres qui pourront vous aider sur la voie de la qualité du code et du refactoring. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Ouais, je vais répéter.
Ok. Donc, ouais, j'ai une remarque et une question. La remarque, c'est à propos de PIDOC. Il y a un truc important et j'ai envie de le mentionner au cas où il y en a certains qui ne connaissent pas. C'est que quand on fait PIDOC, il y a souvent une URL qui s'affiche en haut et la doc qu'on voit dans l'URL, quand on la suit, est souvent plus complète que celle de PIDOC. Donc, ça peut être utile. D'accord ? PIDOC a l'air très bien. On pourrait croire qu'il y a tout, mais il n'y a pas tout. Donc, c'est important.
Non, ça reste ouais. une vue synthétique voilà. du code. Et
ça ressemble beaucoup, des fois, à celle qui est sur le web, mais il y a des choses en plus. Donc ça peut être utile.
Bon, pour ceux, sinon, il y a également... là, on a parlé de la page man, mais il y a des outils qui permettent d'intégrer directement ce code-là. C'est pas juste un outil shell, maintenant c'est intégré dans la plupart des éditeurs.
Alors j'ai aussi une question sur un autre sujet, c'est à propos des tests unitaires. On m'a dit ouais c'est bien, faut que tu en fasses et tout. Je me suis dit ok, je vais essayer. Et le problème c'est que là j'ai vu que tu avais un exemple où tu disais ouais si le résultat est différent de 2 ou j'en sais rien ou positif, très bien ça marche. Maintenant j'avais un programme dans lequel le résultat d'une routine c'était pas un simple entier, c'était un objet avec des sous-objets, etc. Donc ma question, c'est est-ce qu'il y a des outils qui te permettent, une fois que tu as un code que tu estimes marcher correctement, qui permettent de capturer, tu lances ton code, tu captures la sortie de certaines routines et tu lui dis, ça c'est bon, si je te donne ce fichier d'entrée et qu'en sortie de cette routine, tu obtiens tel objet avec tel contenu, tu te dis que c'est bon. Est-ce qu'il y a moyen donc, de capturer cette sorte de sortie des routines et d'avoir des tests unitaires ou que tu appliques à tes versions successives, tu leur dis, bah, tiens, voici ton fichier d'entrée, vérifie que la sortie de telle routine est tel objet, parce que je n'ai pas du tout envie de le rentrer à la main.
Une évolution, alors c'est peut-être intermédiaire avec ce que tu voudrais, mais une amélioration, ou du moins quelque chose qui complémente les docstrings, c'est les doctests. Ça te permet d'avoir du code embarqué qui sera validé Donc ça servira de documentation, mais ça servira aussi à valider certains résultats sur tes fonctions. Donc tu peux très bien imaginer de faire un test de type, de vérifier, d'avoir une signature, et après ensuite de vérifier que la signature corresponde bien à ton objet. Donc ça, ça peut être fait à un certain niveau dans DocTest. Après, sur un outil plus complet, je vois pas, mais je vois pas pourquoi ça pourrait pas être intégré à UnitTest, en fait. On peut très bien tester sur n'importe quel type en retour.
Ce serait bien si ça existait pour de vrai, quoi, une sorte de capture.
Alors après, c'est peut-être effectivement possible, mais c'est pas forcément prévu. Il y a peut-être des précisions que tu veux apporter.
En fait, il y a ce qu'on appelle les mock, les objets mock, et il y a des outils qui existent sous Python, comme Minimock, qui est développé par Ian Binkin, qui permet de faire des records d'objets qui sont traversés par le code qui est appelé par les tests. Et une fois qu'on a enregistré, on va pouvoir rejouer ces sorties-là. Donc en gros, ça permet de faire du patch dynamique à la volée. Le mock s'occupe de regarder ce que le code lui demande. Il va créer des fonctions bidons à la volée pour faire plaisir au code. On va pouvoir jouer sur les sorties de ces fonctions bidons-là. Et une fois que tout ça, ça sera mis en place, on aura un objet mock qui pourra être réutilisé pour satisfaire aux besoins du test, sans avoir à réécrire manuellement tout ce qu'il faut, quoi. Donc mini-mock et python-mock. Mocker. Ouais. Mini-mock, il est orienté doc test. Après, mocker, je ne connais pas, mais il est hyper light. Il permet en deux lignes de faire le boulot là où python-mock nécessite un peu plus de boilerplate code pour écrire le mock. Eh ben, tu peux peut-être faire un lightning talk là-dessus.
Merci.